Quand Marcel Proust écrit Champs-Élysées, il pense jardins et pelouses. Son univers se situe principalement dans un rectangle contenu entre l'avenue de Marigny, qui longe le palais de l'Élysée, où il arrive à Swann de déjeuner, et la place de la Concorde, dans un sens. Dans l'autre sens, l'avenue des Champs-Élysées et l'avenue Gabriel, où le héros fait asseoir sa grand-mère après son attaque et où demeure le professeur E qui la soignera. Il y joue au bar avec Gilberte, se promène avec sa grand-mère, côtoie le guignol et le cirque, les chevaux de bois et la voiture aux chèvres. Et il fréquente aussi un petit pavillon treillissé de verre, assez semblable au bureau d'octroi des affectés du vieux Paris, et dans lequel était depuis peu installé ce qu'on appelle en Angleterre un lavabo, et en France, par une anglomanie mal informée, des water closets. La première fois, c'est pour y accompagner Françoise, l'attendant à l'entrée, dans une fraîche odeur de renfermé. Il sympathise même avec la tenancière, vieille dame à joues plâtrées et à perruque rousse, dont Françoise assure qu'elle est marquise, appartenant à la famille de Saint-Féréol. Le héros n'ignore pas la partie habitée et commerçante des Champs-Élysées, faisant une incursion vers la rue de Berry, à droite en remontant, où il rencontre Gilberte marchant avec un jeune homme. Le raconteur, lui, Fabrice, se trouvait dans la partie basse de ces Champs-Élysées-là, au 52, sur le trottoir de gauche, en descendant. Il fut l'hôte 5 jours durant du Virgin Megastore, qui clame la culture du plaisir, ouvert de 10h à minuit. La grande surface, pleine de mots, de musique et d'images, offrait à Proust son rouge criard, tandis que Fabrice logeait plus haut, sur l'autre trottoir, aux Fouquet's Barrières. L'image bling-bling du lieu depuis une certaine nuit post-électorale ne le dérangeait en rien. Il s'interdisait les complexes. Et il vécut tout tranquillement dans le palace, comme dans une pension de famille. Ainsi, il profita quotidiennement de la piscine intérieure, entourée d'une plage d'ardoises et cernée de bois lisses, comme si c'était sa baignoire. Un siècle après sa mort, Proust rivalisait avec les plus grandes stars planétaires, si l'on devait en juger par la foule exubérante et désordonnée qui s'agglutinait devant le magasin culturel, plus habitué à Justin Bieber, Lady Gaga et Black Eyed Peas. Après les mini-concerts, les rencontres dédicaces, les soirées spéciales, il inaugurait, et ce serait sans doute le seul, les récitals marathon. L'aide aux présentations par les enseignants de Gennevilliers s'avéra encore fort utile auprès de publics peu férus de littérature romanesque du début du XXe siècle. Le premier matin, mardi 19 mai, une file d'attente s'était formée dès 8h30 pour accéder au Saint des Saints, dans la grande salle aux signatures et aux prestations musicales en live. Encore une fois, le public était plutôt jeune, mais des gens bien mis, sans ostentation, ces fameux bourgeois discrets jusqu'alors, se mêlaient aux adolescents. Ils étaient près de 300 dans l'espace largement ouvert sur le hall au monumental escalier. La présentation d'usage des preuves de lettres pour tous eut lieu devant un public qui s'annonçait sage. Des applaudissements contenus accueillirent Fabrice Pelletier, toujours en costume, cravate et chaussures noires, chemise blanche. Sur la scène, au décor, encore plus minimaliste qu'auparavant. Et il engagea son interprétation sans cérémonie. Sir Richard était au premier rang, étonnamment sage, entre le docteur Speck et Madame de Custière. Avec La prisonnière, antépénultième roman du cycle, on apprit d'entrée la situation avec un héros fou jaloux, retenant dans une prison dorée la promise dont il n'arrive pas à savoir s'il veut l'épouser ou s'en séparer. Elle, en tout cas, paraît bien soumise, puisque 1. Elle vient habiter sous son toit. 2. Elle a renoncé à une croisière. 3. Elle a sa chambre au bout du couloir. Et 4. Chaque soir, elle glisse sa langue dans la bouche de son geôlier. Le public rugit de contentement. L'auteur, que la plupart découvraient, réserverait, c'est sûr, des surprises. Ce qui suivait n'était que le détail de la séquestration de la jeune fille afin qu'elle échappe à Gomorre, dispersée aux quatre coins du monde. La voilà cloîtrée, enfermée, et quand elle est dehors, soupçonnée de tous les maux lesbiens. Pendant ses sorties, lui va demander à sa propriétaire, la duchesse de Guermantes, des conseils de toilette pour elle, qui évoquent les robes de Fortuny. « Votre jeune fille peut très bien mettre cela chez elle. J'en ai beaucoup. Je vais vous en montrer. Je peux même vous en donner si cela vous fait plaisir. » Avec La prisonnière, M6 proposait deux rendez-vous quotidiens dans ses journaux. La chaîne l'aurait bien fait dès l'hôtel de ville, mais jamais l'en avait dissuadé les responsables. Car toujours bégueule et cul serré, Farid l'avait averti que Sodome et Gomorre pourraient heurter des oreilles adolescentes leur cible privilégiée. Ce midi-là, la télé diffusa l'échange froufrou sur les robes de la duchesse. L'après-midi, c'est le projet du mariage de Morel avec la nièce de Jupien, sous le parrainage bienveillant du baron, qui ravit les auditeurs. Au JT du soir, M6 proposa le passage où le héros regarde Albertine dormir en s'arrêtant sagement avant le moment où, allongé près d'elle, imprimant de temps à autre une oscillation légère à sa jambe collée à la sienne, il goûte un plaisir moins pur. Le bilan de la première journée magasinière fut tiré par Petit-Jean. Et il y avait les fans, il y avait les bourges, il y avait les Jones, sur les Champs-Elles, ainsi appelait-il les Champs-Élysées. La cavalcade de la foule se faisait flânerie aux abords. Carton plein.